La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. C'est indiscutable, l'influence du mouvement contre le mariage pour tous a joué un rôle décisif dans l'élection de François Fillon comme candidat de la droite pour la prochaine présidentielle. Une droite qui n'hésite pas, lorsqu'elle revient au pouvoir, à s'afficher réactionnaire sur les questions de genre. Comment expliquer autrement la récente annonce par la nouvelle présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, de l'arrêt des financements des recherches sur les inégalités et les discriminations de genre? Comment comprendre ces réactions? En y voyant sans doute la preuve absolue des profondes transformations qui ont affecté ces dernières années la République française. Des transformations dont l'irréversibilité sociale provoque ces soubresauts politiques de surface qui, il y a fort à parier, progressivement disparaîtront. C'est à cette interprétation, du moins, que nous invite la passionnante lecture des défis de la République, le livre collectif qu'ont dirigé Bruno Perrault et John Scott, et dans lequel ils montrent comment la parité, par exemple, a ouvert une brèche aussi précieuse que large dans les théories républicaines de la gouvernance, pointant les limites d'une conception universaliste abstraite de la représentation et ouvrant la voie pour une lutte efficace contre d'autres types de discrimination selon l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle, par exemple. Avec ce livre original et autour d'un ensemble de sujets et d'auteurs pertinents, ils rendent aussi hommage à la trajectoire politique singulière d'une responsable politique majeure et trop méconnue, Françoise Gaspard. John Scott, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne.
Oui.
Vous êtes professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton. Mm-hmm. Et vous travaillez depuis fort longtemps sur la France, entre autres choses, et sur la question de la citoyenneté, sur la question des femmes. On vous doit des livres qui font référence sur ces sujets. Vous co-dirigez avec Bruno Perrault. Bonjour.
Bonjour.
Qui, lui, est associate professeur au MIT à Boston en French Studies. Vous co-dirigez ensemble Les défis de la République, un livre qui paraît aux presses de Sciences Po et qui donne l'occasion de prendre la mesure au fond de ces transformations dont je parlais à l'instant dans l'introduction de cette émission. Ces transformations, on va y venir, elles sont probablement beaucoup plus profondes qu'on peut peut-être parfois l'imaginer, et il faut, pour en prendre toute la mesure, accepter de se détacher un instant de l'actualité, regarder les choses sur une beaucoup plus longue période. Une des manières de le faire, pour vous, à constituer, à s'attacher, à regarder une trajectoire politique singulière, celle d'une responsable politique, Françoise Gaspard, qui, par ses engagements, mais aussi par son travail intellectuel, s'est trouvée associée à beaucoup de ces transformations, même si c'est pas toujours perçu, parce que c'est quelqu'un qui a été tellement pionnière à bien des égards que ses interventions ont déclenché des choses et ne l'ont pas toujours rendu visible au moment où ces choses finissaient par véritablement surgir aux yeux de tous dans l'espace public. Je voudrais, John Scott, qu'on commence par l'évocation de Françoise Gaspard et la raison pour laquelle vous avez voulu finalement vous saisir de sa trajectoire pour essayer de comprendre de manière très heuristique, en fait, comment on pouvait tout simplement faire de la politique, j'allais dire, transformer la société dans laquelle nous vivons.
Alors, on a pris Françoise d'abord parce qu'elle était une très bonne amie. C'est grâce à elle, par exemple, que j'avais écrit le livre sur la parité, que j'avais écrit il y a des années maintenant. Et c'était au moment de la parité que j'avais fait sa connaissance. J'étais impressionnée par sa trajectoire. Peu à peu, parce que c'était, comme vous avez dit, elle est très discrète, on dit. Elle veut pas s'annoncer, elle veut pas faire la publicité de elle. Mais peu à peu, j'avais réalisé qu'elle était comme mère de Dreux, qui avait été confronté par le Front National. Et...
Première fois que le Front National surgit véritablement, c'est lors des élections municipales
à Dreux.
Et Françoise Gaspard, qui est une jeune responsable socialiste, énarque de formation, magistrate en droit administratif de métier, s'était engagée en politique, avait été élue maire de Dreux et a été confrontée à cette irruption du Front National, alors qu'elle portait également une revendication très forte de la gauche en 1981, le droit de vote des étrangers. Oui. Donc on voit qu'il y a déjà plusieurs sujets
qui traversent. Et puis, il y en avait deux plus. Il y avait, après, elle était élue députée de l'Assemblée nationale. Il était le représentante de France à l'ONU sur la commission des femmes. Elle avait travaillé dans les réseaux Femmes pour la parité dans l'Union européenne. Donc, moi, j'avais commencé à comprendre les réseaux qu'elle avait lancés et elle était au centre de beaucoup de ces réseaux. Et je pense que c'était sa capacité de penser la politique stratégique. Elle est vraiment douée pour ça. Elle a une manière de penser la stratégie qui est très rare, même dans le monde politique.
C'est important, Bruno Perrot, de comprendre ça, surtout dans un moment comme celui que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la préparation d'une élection présidentielle, le passage des primaires, où on est dans la rhétorique politique classique, où il suffirait d'avoir un programme bien ficelé, d'expliquer qu'on est élu sur des engagements, des promesses, et qu'on va les mettre en œuvre. En fait, quand on regarde rétrospectivement, on s'aperçoit que les décisions politiques se font tout autrement, et que si on veut avoir la moindre chance de parvenir à changer la société, c'est d'autres mécanismes qu'il faut être capable d'activer, c'est des réseaux qu'il faut être capable de constituer pour aboutir à ces changements et non pas prendre des décisions en tapant d'un coup de poing sur une table.
Oui, c'est-à-dire pour aboutir à des changements qui soient des changements plus durables. Et l'exemple que vous avez pris il y a quelques instants est un excellent exemple, c'est celui de Dreux en 1983. L'actualité de cette élection municipale est brûlante parce que c'est la première alliance électorale, il faut le rappeler, entre le RPR, c'est-à-dire le Parti gaulliste, et le Front National. Donc les enjeux qui ont été ceux de l'élection de 1983 sont évidemment ceux qui vont être peut-être posés entre les deux tours de l'élection présidentielle d'aujourd'hui. Et puis ce livre, Les défis de la République, au fond, ce travail sur les réseaux que Françoise Gaspard a su développer, réseaux divers parce qu'ils rassemblent des sphères très différentes, académiques, politiques, associatives également. Elle a été impliquée aux côtés de l'association AIDE, par exemple, de la Ligue des droits de l'homme. Ce sont aussi des réseaux qui interviennent sur plusieurs niveaux.
On pourrait presque aussi ajouter administratif, parce que oui, comme je disais, il y a une formation des NARC et donc des contacts aussi de ce point de vue-là. Donc la haute administration, le monde politique du Parti socialiste, en l'occurrence, dont elle est l'élue, mais aussi les mondes académiques, puisqu'elle va être enseignante chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales, où elle va animer un séminaire important pour autour de ces questions de genre et de parité. Et puis les réseaux associatifs dont vous parlez. Donc ça fait des dimensions...
Extraordinaires.
Oui. Et il est rare qu'une personne soit capable d'articuler à elle seule toutes ces dimensions.
Je crois que sa formation administrative est ce qui lui permet aussi de circuler entre différents niveaux de prise de décision, du local au supranational, et de connecter ces différents niveaux de prise de décision. Il nous a semblé utile de rendre justice à ce parcours pour deux raisons liées à l'actualité. C'est que la première, comme vous le disiez, nous entrons dans une phase électorale où le discours du changement c'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain, est omniprésent. Et on a là une modalité transformation de la République qui se construit selon une temporalité complètement différente. Et puis, on voit aussi, depuis quelques semaines, comment, et c'est aussi l'impact du mouvement de la Manif pour tous que vous avez évoqué, comment des hiérarchies de priorités se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y aurait des vrais problèmes, des problèmes importants qui concerneraient les vrais Français, que seraient les questions économiques et un certain nombre de questions liées à la sécurité, par exemple, et puis d'autres questions qui seraient des questions mineures, secondaires. Dès lors que l'on est dans une phase de tension ou de crise politique, les femmes, les minorités, les étrangers résidant en France sont toujours les premières victimes de ces formes de hiérarchie.
John Scott, ce qui est frappant, par exemple, c'est que dans le cadre de la primaire à gauche, dont le premier tour de scrutin se déroulera demain, on n'a pas vraiment entendu les candidats proposer de parler de la PMA, de la GPA, d'en faire un thème central de campagne. On aurait pu imaginer, une fois la loi Taubira votée, que le nouvel horizon politique sur ces questions-là aurait été celui-là. Or, rien, ou à peu près rien, de ce point de vue. Donc, on voit bien que si ce changement, qui finira probablement par arriver, c'est une certaine philosophie de l'histoire, d'une certaine façon, qui nous permet de le penser, il se produira autrement que depuis le haut vers le bas. Il se produira, comme pour la parité, comme pour le mariage pour tous, par la mobilisation d'acteurs sociaux extraordinairement différents. C'est aussi ça la leçon des différents textes que vous publiez dans ce livre, John Scott.
Oui, et je pense que c'est démontré dans ces textes, dans le livre. Par exemple, c'est au niveau local qu'il y avait des changements importants, très difficiles à voir d'en haut, mais qui avaient changé la vie des gens dans la ville, la vie quotidienne des femmes dans la ville. Moi, je pense qu'il sera comme ça aux États-Unis maintenant, avec Trump. On ne sait pas qui vont passer. Et en même temps, il y aura des protestations, des manifestations d'en bas pour insister sur que les choses ne changent pas. Nous sommes dans un moment où la réaction, le backlash, a commencé d'être très fort. Et je crois que la résistance prend la position de conservateur, paradoxalement.
Alors, John Scott évoque la situation américaine. J'aimerais votre point de vue, Bruno Perrault. Vous enseignez aux États-Unis maintenant depuis de nombreuses années. Vous avez commencé à faire de la recherche en France, mais vous êtes allé assez vite aux États-Unis. Comment vous percevez les choses du côté américain ?
Vaste question. Un des éléments les plus saillants de l'élection de Trump a été la façon dont son propre discours a été adossé à un discours de rejet des politiques minoritaires. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui doit nous interroger du point de vue de la présence des minorités dans l'espace public. C'est-à-dire pas seulement la question des droits en tant que tels, qui évidemment est une question essentielle, mais la question de la présence même des minorités. Qu'est-ce que cela signifie pour le principe même de représentation, l'idée de donner sa voix à quelqu'un. Et dans un article qu'elle a publié récemment, Judith Butler montre bien comment Trump a joué sur son image pour donner l'impression qu'il allait donner du pouvoir, donner la possibilité d'agir aux personnes qui étaient les plus en souffrance et en difficulté, alors même que cette entreprise ne servait que sa propre trajectoire. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut impérativement penser dans le rapport entre majorité et minorité aujourd'hui dans les politiques américaines.
Alors, pour penser à la question des minorités, justement, John Scott, c'est très intéressant de se pencher sur le cas des femmes, pour essayer de voir comment un certain nombre de changements qui concernent les femmes peuvent bénéficier, par analogie en quelque sorte, et dans un usage stratégique dont vous parliez tout à l'heure à propos de Françoise Gaspard, à d'autres minorités. Comment des combats gagnés pour les femmes, pour l'égalité et contre les discriminations entre genres peuvent bénéficier à d'autres type de discrimination. C'est une question extraordinairement importante d'un point de vue stratégique. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'appuyer sur ces victoires, s'en servir comme un modèle ou un levier ?
Moi, je crois qu'on peut le faire. Et c'était évident dans l'histoire contemporaine que c'est ça qui est passé. Et je crois que maintenant, moi j'étais impressionnée par le programme de marche des femmes. Ils disent c'est une marche organisée par les femmes, mais pas exclusivement pour les femmes. C'est une marche pour les minorités, pour les sans-papiers, pour les gens handicapés, n'importe quoi. C'est une question des droits humains. Et le féminisme, je crois que le féminisme, les militantes avaient l'expérience politique, mais en même temps l'expérience de mobiliser les gens dans les rues, qui peut servir et qui a bien servi pour mobiliser les autres.
Bruno Perrot, si c'est rendu possible, si on peut s'appuyer par exemple sur la victoire du combat pour la parité de façon à le penser pour d'autres types de minorités, c'est parce que précisément la parité n'a pas été entendue d'un point de vue essentialiste. Quand Françoise Gaspard a lancé le débat, il ne s'agissait pas pour elle que les femmes soient en tant que femmes reconnues dans l'espace public, mais simplement il s'agissait de faire respecter une égalité entre les femmes et les hommes, en refusant la dimension féminine comme une essence. Ça, c'est un enjeu philosophique et politique extraordinairement important.
Oui, je le crois. C'est un enjeu essentiel de la mobilisation de Françoise Gaspard, qui a vraiment plaidé pour la parité dans un livre important qui est Au pouvoir citoyenne, paru en 1992, Liberté, égalité, parité, coécrit avec Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall. Elle a plaidé donc pour un mécanisme de correction de la discrimination historique envers les femmes. Et ce travail sur l'historicité est évidemment absolument essentiel. Néanmoins, lorsque la parité a été mise en politique dans le giron du gouvernement Jospin, des arguments naturalistes, essentialistes ont été développés. L'idée qu'il y aurait une division fondamentale, anthropologique fondamentale, entre les hommes et les femmes, et que celle-ci viendrait justifier la parité, argument au nom duquel un certain nombre de paritaristes, disons de seconde génération, ont justifié le refus des contrats d'union civile, c'est-à-dire du Pax, en expliquant que cette division ne pouvait pas permettre une reconnaissance dans la sphère civile des couples de même sexe.
Ça, on voyait très bien dans la mise à plat qui a été ce livre important qui était Au-delà du Pax, qui avait été dirigé par Éric Fassin, Marcella Yacoub et Daniel Borio à l'époque, qui montrait bien comment les choses s'articulaient différemment à partir de ces deux questions, ces deux débats centraux des années 90, parité d'un côté, Pax de l'autre.
Et je crois que c'est pas surprenant que la revendication du mariage pour les couples de même sexe n'est pas, dans ce contexte-là, donné lieu à plus de réformes. Parce que, bien sûr qu'il y a eu une adaptation de la plateforme politique de la gauche de gouvernement à des transformations de la société et à des victoires des associations et d'un certain nombre d'universitaires pionniers. Mais la philosophie qui sous-tend l'idée du contrat social au sein de la gauche de gouvernement n'a pas beaucoup changé et est toujours articulée à cette idée de la nature. C'est pas donc pour rien que la PMA pour les femmes célibataires, pour les couples de femmes, ou que la GPA n'ait pas été incorporée en quelque sorte dans le texte de loi du mariage pour tous.
John Scott, sur ces questions, comment vous, qui regardez ces évolutions françaises dans une perspective historique longue, vous voyez les choses? Est-ce qu'au fond, refuser l'essentialisme tout en défendant la parité, c'est pas une manière de parvenir aussi à faire entrer la parité dans des formes de l'universel qui sont celles de la République française?
Oui, je pense que c'est ça que, comme Bruno disait, c'était passé exactement comme ça. C'était au moment, en 1999, que le mouvement pour le Pax, il y avait une intersection du mouvement pour le Pax avec le mouvement pour la parité. Et c'était le moment que Sylviane Agacinski, par exemple, a écrit son livre, La politique des sexes, quelque chose comme ça, en disant, c'est la complémentarité entre hommes-femmes qu'il faut respecter dans le Parlement et dans la famille. Donc, c'était impossible de penser les couples homosexuels, les couples de même sexe. Moi, je crois que la parité est devenue loi, la plupart à cause de ça, parce que c'était pas une menace dans la même manière que le Pax. C'était une menace à la famille traditionnelle, la famille justifiée, légitimée par la nature.
Donc ça veut dire qu'il faut savoir parfois faire des alliances politiques, être suffisamment intelligent pour trouver des appuis, pour faire passer des réformes, y compris en s'alliant avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord sur même les fondements philosophiques en quelque sorte.
Oui.
C'est une forme de pragmatisme politique.
Oui, mais je crois que l'idée de la parité était profondément changée par Agacinski. Françoise Gaspard n'a pas pensé comme ça, elle a refusé l'essentialisme, l'essence biologique, naturelle des hommes-femmes. Et c'était la transformation de l'idée philosophique même qui avait justifié la loi à la femme. Mais en même temps, après avoir passé la loi, il y avait la possibilité d'ouvrir le monde politique aux femmes. Et c'était possible pour les femmes de trouver des postes. Et maintenant, on a parlé hier soir de ça. Il y a maintenant, on regarde partout en disant, oh, nous ne sommes pas ici dans le mode de la parité. Oh, ici, on a la parité. La conscience des gens de l'égalité en femmes ou de la possibilité de la parité est arrivée avec la loi. Et moi, je pense qu'il est irréversible.
Bruno Perrot, cette fois, j'aimerais qu'on regarde la France depuis les États-Unis. Vous venez de publier aux États-Unis Queer Theory, The French Response, donc cette réponse française à ce qu'on appelle Queer Theory, mais on pourrait remplacer par la théorie du genre, cette espèce de spectre, cette chose mobilisée pour faire peur, cet épouvantail qui n'existe pas, à part dans le discours politique de certains. Mais disons que le concept de genre, qui lui existe, est discuté, débattu par des chercheurs depuis longtemps, fait visiblement peur en France d'une manière singulière, qui renvoie à l'histoire de France, à l'histoire de la République française en particulier. Comment l'expliquer ?
Je crois que ce que nous évoquons dans le livre « Les défis de la République » est un travail, c'est une réflexion sur les frontières de la citoyenneté. Au fond, c'est cela qu'interroge la parité. Quel type de communauté politique se met en place ? Quel type d'imaginaire de l'horizontalité, d'une certaine façon, circule. Et cet imaginaire-là, il est connecté aussi à toutes sortes d'autres fantasmes, qui sont les fantasmes de la transmission, de la généalogie, au sein de la nation, une forme de représentation plus verticale du rapport à l'autre, et qui ont suscité en France des réactions tout à fait spécifiques dans le cadre de la Manif pour tous. Et les représentations de la citoyenneté aux États-Unis, vues depuis la France, ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment une peur d'une invasion, en quelque sorte, d'une autre forme de citoyenneté, d'une autre forme du rapport à l'autre, qui pourrait menacer les fantasmes de la République.
Par exemple, le fait, on en parlait récemment avec Fabrice Dume ici, le fait que le mot communautarisme est employé régulièrement en France et désigné comme étant un phénomène anglo-saxon, alors même que ce mot n'existe pas dans la langue anglaise, John Scott.
Oui, c'est difficile de m'exprimer là-dessus, mais je crois que communautarisme, c'est un mythe, une menace imaginée, fantasmée. Et vous avez raison, qui n'existe pas comme menace chez nous. Il y a la politique d'identité, peut-être, mais pas communautarisme qui suggère une subversion de la nation, je crois. L'idée que la nation sera divisée en miettes s'il y a une reconnaissance de la différence. Et c'est sur la question de la différence, je crois, que la France avait cette idée d'un universalisme sans différence, qu'il est possible de vivre sans différence, comme s'il y a une reconnaissance des différences, il y aura l'impossibilité de s'entendre. Et je crois que c'est l'histoire de la théorie politique de la République qui date à la Révolution française, qui a pensé l'individu abstrait comme incarnation de l'universel, et qui insiste sur que tous les individus soient semblables.
Identique.
Et si on n'est pas identique...
C'est une identité au sens d'identique.
Ouais. Oui, au sens d'identique.
C'est-à-dire qu'au fond, pour le dire autrement, la République française a tendance en général à ne vouloir voir qu'une tête.
Oui, c'est oui. Ça.
Ou la couper parfois. Il y a aussi une forme d'ironie dans ce dialogue franco-américain, puisqu'au fond, la peur de la théorie du genre, mais qui cible plus particulièrement des auteurs qui sont labellisés aux États-Unis comme des auteurs queer, notamment Judith Butler, mais pas seulement, c'est une peur d'invasion d'une théorie qui, aux États-Unis, est désignée comme une théorie française. Parce qu'elle est fondée sur un grand nombre d'auteurs français, comme Foucault, comme Deleuze, comme Derrida.
Beauvoir.
Comme Beauvoir,
même si c'est Simone de Beauvoir.
Donc, on est dans une sorte de dialogue qui permet de penser ce que Foucault appelait une réalité transaction. Quelque chose qui relève du fantasme, qui n'existe pas nécessairement, mais produit néanmoins des effets sociaux très tangibles.
Au fond, on pourrait dire que c'est de la version intellectuelle, abstraite, d'une peur du grand remplacement. C'est-à-dire qu'à côté de cette peur, là aussi utilisée d'un grand remplacement de population venue du sud de la Méditerranée, il y aurait l'idée d'un grand remplacement de notre philosophie politique par une philosophie politique anglo-saxonne.
Oui. Non, c'est... Moi, pendant le Manif pour tous, il y avait des affiches, des placards qui disaient « Non à la théorie du genre ». Et avec mes amis aux États-Unis, on disait « Où, sauf en France, où aura-t-il une manifestation contre une théorie ?» C'est impensable chez nous qu'une théorie sera une menace politique.
D'autant que cette théorie... en tant qu'une théorie unifiée, n'existe pas.
Exactement. Il n'existe pas une théorie du genre. Mais l'idée fantasmatique d'une théorie du genre qui va détruire, subvertir la nation, c'est incroyable.
Juste un mot, Bruno Perrot, parce qu'au fond, cette théorie n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est un concept, celui de genre, qui est un concept des sciences sociales. Et au fond, on en vient à se demander si c'est pas ça qui dérange. C'est-à-dire, c'est ce type de regard qui vise à refuser l'essentialisme, qui cherche à comprendre comment les choses sont construites historiquement et socialement. Ce qu'il y a de profondément social, au fond, dans la différence entre les hommes et les femmes, et non pas de biologique.
Oui, c'est un outil pour penser qui est mis en question, qui est mis en question précisément parce qu'il a une certaine labilité. C'est un outil qui peut être approprié dans de nombreuses circonstances par des scientifiques issus de nombreuses disciplines et puis évidemment par les citoyens eux-mêmes. Cela devient un élément de la subjectivation des personnes. Il y a désormais des psychanalystes aussi qui utilisent le concept de genre pour résister à des usages conservateurs des théories de l'ordre symbolique. Au fond, il y a aussi un autre élément qu'il faudrait évoquer, dont on parle dans le livre « Les défis de la République » à travers l'article d'Eliane Viennot, qui est cet attachement à la théorie, ce fantasme de la théorie, il doit se comprendre aussi dans l'histoire longue, le fait que c'est la clergie qui exclut les femmes. Cette classe, pourrait-on dire, de savants qui vont occuper les fonctions administratives de l'État, construire l'État français, qui vont le faire sur l'exclusion des femmes et qui vont donc associer l'exclusion d'une catégorie de la population et d'autres minorités, évidemment, et l'idée même de savoir.
Merci beaucoup Bruno Perrot. C'est l'un des chapitres dont vous venez de parler. Il y en a de nombreux, signés Sophie Bessis, Daniel Borillo, je ne vais pas citer tout le monde, mais Daniel Lochac, Janine Mossulavo, beaucoup d'autres dans ce livre que vous avez co-dirigé avec John Scott. Je vous indique qu'on trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées. On trouvera aussi les références de votre livre Queer Theory sur cette même page où vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez également la podcaster. Merci à tous les deux.
Merci.
C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production. Catherine Denet à la technique. Pierre Monteil à la réalisation. Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein.